Interactive de VOA Africa, votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington à l'occasion de la Journée internationale des populations autochtones. Les communautés autochtones en Afrique représentent 16% de la population du continent. Au niveau mondial, elles représentent 20% des personnes extrêmement pauvres. Leurs terres couvrent 28% de la surface du globe et contiennent 11% des forêts du monde. Ces peuples sont souvent considérés comme les gardiens de la biodiversité de la planète. Leurs systèmes alimentaires ont des niveaux élevés d'autosuffisance. Ils représentent une immense diversité de cultures, traditions, langues et connaissances. Alors, comment préserver leurs droits, hein, les droits des populations autochtones? Les peuples indigènes sont-ils menacés par la modernité? Quelle est leur contribution à la société et au développement durable? Nous avons deux invités en ligne, notamment Kedi Bosulumola, qui est coordonnateur du REPALEF RDC, le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en République démocratique du Congo. Kedi, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Oui, bonsoir madame, merci, je suis content d'être avec vous. Merci.
Alors nous avons également en ligne Rabiatou Bama, donc Kedi lui est à Kinshasa, Rabiatou Bama elle est à Yaoundé, elle est ingénieure forestière, elle est présidente du CAFEN, le réseau forêt et environnement du Cameroun. Rabiatou, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie et merci pour l'invitation.
Voilà. Alors, restez donc avec nous en ligne. Essayez de minimiser au maximum les bruits environnants pour qu'on ait une ligne la plus parfaite possible. Alors, qui dit peuple autochtone, dit très souvent protection des forêts. Alors ça, c'est déjà un point très intéressant. On a remarqué que la plupart des réseaux, des associations de protection des autochtones sont très liés à la forêt. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on a beaucoup d'autochtones finalement qui vivent dans la forêt aujourd'hui? Je poserai peut-être cette question à Kedi pour commencer.
Oui, merci beaucoup madame. En République démocratique du Congo, comme vous savez, il y a une immense potentialité forestière et c'est là où il y a beaucoup de richesses naturelles. Et que dans ces richesses naturelles, dans cet espace, il y a beaucoup de peuples autochtones. Aujourd'hui, je peux dire que les populations pygmées représentent tout au plus 20% de la population active ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils vivent de la nature, de la biodiversité et de la forêt. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu à l'occasion de la Journée internationale des populations autochtones.
Très bien.
Pour essayer un peu de parler de cela. Merci.
Alors Rabiatou Bama, vous êtes donc ingénieure forestière et vous donc présidez cette association qui finalement travaille avec de nombreux autochtones. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit plan assez rapide finalement de ce que vous faites?
Merci Nathalie. Ce que nous faisons déjà, c'est que nous travaillons avec les communautés Baka particulièrement parce qu'il faut dire que la loi camerounaise reconnaît environ quatre groupes ethniques comme population autochtone, c'est-à-dire les Baka, les Bakola, les Bakieli et les Beta. Et il faut dire les Baka avec lesquels nous travaillons sont considérés comme majoritaires. Et forcément, qui parle de population autochtone va voir la forêt à côté parce que ils ne vivent pas seulement dans la forêt, mais ils vivent de la forêt. Donc, c'est ces deux entités qu'on ne peut pas gérer séparément. Ils vont ensemble, ils vont de pair et leur mode de vie est axé sur la ressource forestière et tout, et préserver leur existence et forcément également préserver tout l'écosystème forestier. Donc, notre projet Women and Youth in Forest Protection essaye de donner la voix aux populations autochtones pour qu'ils participent effectivement, parce que là, c'est vraiment un problème de participation efficace de ces populations dans la prise de décision au niveau local.
Alors, on va écouter Mati Yav, qui est en République démocratique du Congo. Elle est avocate, c'est une experte en environnement.
En Afrique, bien que minoritaire numériquement, il contribue à la survie d'espèces endémiques, la protection de la biodiversité dans les zones préservées de l'impact de l'anthropocène, mais également ils sont les gardiens des traditions et savoirs traditionnels cruciaux, surtout dans cette ère de développement durable et de perturbations climatiques. Il est primordial de leur accorder la protection nécessaire, de mettre en place des mécanismes qui leur permettent de renforcer leurs attributs, mais également de leur faire prendre conscience qu'ils sont l'un des piliers de la survie de la planète et de la survie de notre espèce. Pour cela, nous devons véritablement nous soucier du devenir de nos peuples autochtones.
Alors, je reviens vers Kedi Bosulu Mola. Vous pourriez aussi, à présent, maintenant, présenter votre activité. Également, que faites-vous donc avec les peuples autochtones, hein? Je crois que vous êtes un grand nombre d'organisations, 140 organisations d'autochtones. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oui, effectivement. Ici, en RDC, la RDC est vraiment vaste et qui, en tant que réseau, nous travaillons en synergie avec les organisations. Nous avons à peu près 140 organisations membres qui sont membres au sein de notre réseau et que les activités que nous menons actuellement, nous avons eu la loi sur les peuples autochtones qui est quelque chose de bien. Maintenant, nous travaillons sur les mesures d'application de cette loi. Aujourd'hui, la journée internationale était consacrée pour mobiliser les décideurs, pour plaider en sorte que les mesures d'application soient prises, en sorte que cette loi ne soit pas juste un papier, mais soit vraiment un outil qui vient pour changer la vie sociale des populations autochtones. Et qu'en dehors de cela, nous mettons en place des programmes spéciaux, notamment en rapport avec la gestion durable des ressources naturelles, les projets par rapport à l'arrêt des changements climatiques, les projets sur l'éducation, sur la santé, les projets aussi sur la vulnérabilité nutritionnelle. Tous ces projets viennent pour appuyer les efforts du gouvernement visant à réduire les conditions de vie précaire de populations autochtones. Voilà un peu comment est-ce que nous travaillons ici en République démocratique du Congo. Nous appuyons sur les différents appuis des partenaires et que nous investissions sur nos organisations avec lesquelles nous travaillons avec eux, et que ces organisations aussi essayent aussi d'intervenir au niveau le plus local
possible. Absolument. Kedi, essayez de vous éloigner. Essayez de vous éloigner un petit peu, s'il vous plaît, de votre micro, parce qu'on a des problèmes, ça pop, comme on dit. Éloignez-vous un petit peu de votre micro pour parler donc prochainement. Restez avec nous. On va écouter un auditeur de VOA Afrique. C'est Ibrahim. Il est au Niger.
Les peuples autochtones ou bien les peuples non contactés sont des peuples qui se sont laissés à eux-mêmes. Ils sont partout dans le monde, chassés, marginalisés, isolés. Ils sont exposés aux divers problèmes. Les problèmes de subsistance, l'exposition aux maladies, c'est-à-dire ne sont pas immunisés. La société et l'État doivent beaucoup à ces gens qui détiennent les secrets de la nature. On doit collaborer avec eux pour tout ce qui a trait à l'environnement, de leur apporter une assistance sur tous les plans, dans les plans éducatif et sanitaire et de leur chercher une alternative. Passez une excellente journée, la VOA.
Voilà, à présent, écoutons Soyata Maïga. C'est l'ancienne présidente de la commission des droits humains de l'Union africaine et elle a justement travaillé sur des projets spéciaux avec les autochtones. On l'écoute.
Pendant plusieurs années, j'ai été la présidente du groupe de travail sur la protection des droits des populations et communautés autochtones au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. De par mon expérience et de par les différentes analyses, les rapports de mission, l'interaction avec les populations autochtones elles-mêmes, je voudrais dire qu'il y a différentes manières, différentes politiques et programmes par lesquels les droits de ces populations autochtones peuvent être protégés et préservés. La première des choses, c'est d'abord la reconnaissance par les États de l'existence de ces populations autochtones déjà sur leur territoire. Donc, la meilleure façon de protéger, c'est déjà de leur reconnaître leur qualité, leur statut de population autochtone. Aussi la reconnaissance de leurs droits en tant que population et communauté autochtone et d'internaliser leurs droits, protéger leurs droits à l'intérieur par les législations nationales. Ces législations nationales doivent effectivement s'articuler ou non autour du principe de non-discrimination, ce qui a une marginalisation accrue par rapport aux femmes autochtones. On n'a pas le temps de tout développer, mais on en aura à l'occasion. Donc, protéger leur accès à la terre, parce qu'ils vivent de la terre, ils vivent de cette biodiversité qu'ils entretiennent, la forte interaction qu'ils ont avec la nature. Donc, protéger leur droit à la terre et au régime foncier.
Voilà, c'était Soyata Maïga. Rabiatou Obama, pour la question, on va revenir sur l'accès à la terre tout à l'heure, parce qu'on voit effectivement que les autochtones sont fortement liés donc à leur propre terre. Au niveau de la reconnaissance de l'État, Kedi Bosulumola tout à l'heure a parlé de certaines lois. Est-ce qu'au Cameroun, l'État reconnaît justement l'existence d'une certaine manière de ces peuples autochtones? Est-ce qu'ils sont donc différenciés d'une certaine manière et en tout cas au niveau de la loi protégés d'une autre manière?
Oui, merci Nathalie. Je pense qu'au niveau du Cameroun, effectivement, les différentes lois essayent de reconnaître l'existence de ces populations, de les définir. Et avec le fort plaidoyer mené depuis les années 90 par les organisations de la société civile, il y a des évolutions dans ces lois qui, au départ, étaient fortement discriminatoires à l'égard de ces communautés autochtones. Et puis, progressivement, on sent quand même qu'il y a de l'évolution. Je peux prendre l'exemple de la loi forestière de 1994 qui portait le régime des forêts et les forêts de la pêche au Cameroun, de la chasse, pardon, et qui définissait justement les droits d'usage, c'est-à-dire que les droits des communautés riveraines et autochtones à exploiter les ressources forestières de leur terre pour une utilisation personnelle. Et là, c'était vraiment restrictif, c'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas véritablement le droit de ces communautés-là qui avaient dans le passé l'habitude de faire des échanges sous forme de troc avec leurs voisins bantous. Ils apportaient des produits de la chasse et de la cueillette contre des produits agricoles. Et lorsqu'on limitait en 94 ce droit d'usage justement à une utilisation personnelle, ça faisait un gros problème de discrimination. Et Dieu merci, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée au Cameroun. La nouvelle loi forestière, c'est la loi 2024-08 du 24 juillet 2024 et qui a aidé d'améliorer cette définition des droits d'usage des communautés autochtones et riveraines en disant que ces communautés peuvent désormais également commercialiser les produits issus de la chasse et de la cueillette, mais dans les marchés situés à proximité de leur communauté. Et ce sont des espèces qui ne sont pas des espèces protégées. Donc, ils peuvent chasser, ils peuvent cueillir les PFNL et commercialiser sur les marchés à proximité de leur zone, mais Et il faut garder de... Donc, c'est vraiment une évolution dans les lois pour reconnaître que ces populations existent, ils ont des droits fondamentaux et ils ont un mode de vie particulier et il faut faire bouger des lignes pour que davantage leur accès à la propriété, aux ressources forestières soit véritablement encadré et libre. Parce qu'ils n'ont que ça, ils n'ont que ça pour vivre.
Merci Rabiatou Bama. Écoutons à présent Fatoumata Chérif. C'est une éco-activiste en Guinée. Elle est aussi conseillère en développement.
Le rôle des peuples autochtones dans notre société et pour l'atteinte des objectifs de développement durable est primordial. Leur rôle est interdépendant. Il faut vraiment analyser ça sous l'angle holistique. Dans la lutte contre le changement climatique, dans la connaissance des sols, dans la lutte contre la désertification, le rôle de la forêt, le rôle de l'eau, les peuples autochtones ont un savoir-faire qui tient compte de la nature. Je crois que ce rôle-là ne doit pas être négligé. D'ailleurs, les conventions internationales promeuvent les savoir-faire des peuples autochtones. C'est vrai. Leur contribution n'est pas mise à l'échelle parce qu'aujourd'hui, pour se rendre dans ces grandes conférences, ces peuples autochtones ont du mal parce que non seulement certaines de ces populations vivent dans les réserves et donc ne sont pas connectées à ce qu'on appelle modernité, donc avoir un passeport, pouvoir voyager par avion parce que elles ont leur mode de vie, leur mode d'habillement qui ne peut pas peut-être convenir au froid dans ces zones de conférences, mais je crois qu'on doit les inclure. L'inclusion demande à ce qu'on accepte ces populations comme elles sont, ne pas vouloir transformer leur mode de vie parce que cela impacte leur santé. L'exemple du Canada, par exemple, où les peuples autochtones ont été forcés d'oublier leurs connaissances traditionnelles et leur mode de vie, leur mode de fonctionnement, a créé une crise identitaire. Certains sont tombés dans l'alcoolisme, d'autres se sont suicidés et cela est très grave. Les connaissances des peuples autochtones peuvent aujourd'hui nous aider à sauver le monde contre le changement climatique et aussi nous aider à lutter contre les maladies parce qu'elles ont une connaissance parfaite de la nature, parce que la nature est une partie intégrante de la culture même des peuples autochtones. Et j'ai parlé de l'Amérique, mais ici en Afrique également, les peuples autochtones ont un savoir-faire qui peut être mis à profit dans plusieurs domaines. La résolution des conflits, la lutte contre les maladies, la protection de la forêt, des savoir-faire qu'on appelle aujourd'hui des low-tech, c'est-à-dire avec les connaissances des peuples autochtones, on peut aujourd'hui progresser vers le développement sans l'usage aujourd'hui des machines ou même des pesticides parce que ces connaissances traditionnelles peuvent aider à protéger le sol mais aussi à améliorer les cultures. Les savoir-faire doivent être documentés et on doit aussi mettre à profit leurs connaissances en langue.
Voilà, c'était donc Fatoumata Chérif, elle est en Guinée, éco-activiste. Alors elle a dit beaucoup de choses, mais on pourrait retenir finalement la question de la protection, notamment de l'environnement. À l'heure où on parle beaucoup, Kedi Bosulumola, notamment du dérèglement climatique, des problèmes d'environnement, etc., j'ai retenu qu'elle a dit on doit documenter leur savoir-faire. Est-ce que on en est à l'heure actuelle à aller vers ces peuples-là, justement parce qu'on sait qu'on a du mal à trouver des solutions, n'est-ce pas, pour nos questions problématiques d'environnement? Est-ce que on en est au fait finalement de devoir aller peut-être frapper à la porte de ces peuples-là? Et est-ce que on ne le fait pas déjà finalement?
Oui, je pense que les grands défis que nous, les acteurs d'accompagnement des populations autochtones, nous avons un défi de publication des données, des informations qui concernent tel que tout le monde a dit là, les connaissances, les savoir-faire des populations autochtones. Il y a tellement peu d'informations que nous détenons et que on ne publie pas ces informations. On ne met pas à la vente toutes les connaissances, les savoir-faire, les connaissances des populations autochtones. Alors, maintenant, dans le contexte de la loi de la RDC, dans le contexte de la loi a essayé un peu de sécuriser certains aspects, notamment liés à la connaissance et au savoir-faire des populations autochtones par rapport à leur culture, par rapport à leur savoir-faire,
tout ça, pour que ça soit vraiment recadré au niveau national. Alors, la loi insiste sur le fait que là où il y a les populations autochtones et que si vous voulez ramener des projets de développement, il faut inclure ces populations conformément à la lumière des textes internationaux régissant les droits de ces populations. La loi insiste sur le partage équitable et juste des revenus découlant de la gestion durable des ressources naturelles, la forêt, les mines, hydrocarbures, les choses pareilles. Alors, par rapport à ces mesures, l'État va prendre peut-être les mesures d'application pour permettre à ce que les populations autochtones puissent bénéficier des avantages, parfois découlant de ces exploitations des ressources, pour permettre leur développement endogène. Voilà un peu l'orientation que le gouvernement a pris en sorte que l'identité des populations autochtones soit vraiment protégée et que avant de réaliser quelque chose dans les milliers de populations autochtones, il faut absolument intéresser ces populations-là, obtenir leur consentement préalable et puis monter les programmes ensemble.
Absolument.
Avec
Absolument, Kedi Bosoulou-Mola, restez avec nous. On va écouter à présent Leila Mbimbe, elle est au Cameroun. Et tout de suite après, on ira au Tchad pour écouter Ozana Djimrangar. D'abord, Leila.
Il est important pour nous de savoir ce que c'est qu'un autochtone. Donc nous pouvons définir autochtone comme étant une personne native d'une région donnée déterminée et qui y tire ses origines. Personnellement, je vais m'accentuer sur la marginalisation que subissent la plupart du temps les peuples autochtones, car les allogènes ont tendance à vouloir dominer et porter atteinte à leurs droits, traditions et coutumes, chose qui n'est d'ailleurs pas normale. J'appelle ici en conclusion les peuples autochtones à la vigilance et à la prudence et aux allogènes. Je vais les interpeller en disant et en les suppliant de respecter les traditions des autres.
Moi, je crois que la population autochtone est aujourd'hui marginalisée. Ses droits sont bafoués. Il est de la responsabilité des dirigeants de protéger cette couche de la population. Sinon, je crois que c'est de l'injustice. Cette population aujourd'hui représente un patrimoine pour le continent et le monde entier. Mais malheureusement, sur le plan pratique, cette population est reléguée au second rang et c'est ce qui n'est pas du tout bien. Nos dirigeants doivent avoir une politique pour permettre à cette population de aussi bénéficier des droits et des privilèges du monde.
Kedi, je vais revenir plutôt sur vers Rabiatou Obama. Donc, je rappelle que vous êtes au Cameroun et vous avez aussi, comme l'a dit tout à l'heure Kedi, en RDC, des programmes en direction des écoles, en direction de l'enfance de ces peuples autochtones. Et vous avez entendu on a écouté deux personnes qui ont encore parlé de la marginalisation. Alors, ma question serait la suivante au niveau justement de l'éducation. La plus grande inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que ces enfants d'autochtones ne soient pas justement marginalisés au sein même de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il est fait à votre niveau, justement au niveau de ces programmes éducatifs en direction de la jeunesse autochtone ?
Pour la jeunesse autochtone, la question et l'intervention de M. Kedi de RDC m'a paru vraiment intéressante lorsqu'il a parlé de savoir-faire et tout. Et avant de revenir à votre question directement, j'aimerais appuyer en disant qu'il y a une grosse inquiétude finalement sur ces savoir-faire ancestrales des communautés autochtones, parce qu'on a l'impression qu'avec le dérèglement climatique et autres, il y a la population autochtone est en train de finir, les ressources se raréfient et la population autochtone diminue, les anciens ne sont plus assez nombreux pour transmettre ces savoirs et il est vraiment urgent qu'on s'attelle à la documentation de ces savoirs, même comme ils sont encadrés par divers protocoles, dont le protocole de Nagoya. Et nous, ici également, on a ce projet École Verte parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, comme ma compatriote du Cameroun a dit tout à l'heure, que les populations autochtones ont tendance à être marginalisées, les Bakapa, les Bantous, et ceci crée une situation où ils n'arrivent pas à s'autodéterminer, à s'affirmer, à affirmer leur leadership. Ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les communautés de les comités de prise de décision au niveau local. Et nous les formons au leadership, nous les formons à accepter ce qu'ils sont. Et lorsque ces formations ne passent pas facilement, on a choisi l'option de commencer par les plus petits, c'est-à-dire à l'école primaire. On travaille avec ces enfants pour leur montrer qu'ils ont des savoirs qu'ils ont acquis de leurs parents et puis ils peuvent devenir cette jeunesse autochtone capable de jouer un rôle efficace dans tout ce qui interpelle l'humanité aujourd'hui. Le programme, il est mis en place depuis deux ans déjà avec le ministère de l'Éducation de base et l'appui de quelques sociétés privées, donc RUMCAM et aussi l'ambassade de France au Cameroun. Et nous pensons que progressivement, nous allons arriver à une situation où actuellement, par exemple, on vous dira, c'est difficile de trouver des enfants autochtones au lycée ou encore à l'université. Et dans ce programme, justement, nous poussons les enfants du primaire, ceux qui arrivent au secondaire. Oui. Il y a un système de bourse, des mesures incitatives qui seront mises en place progressivement pour que le problème est réel, les marginalisations au niveau du système éducatif, ils sont réels.
Formidable. Alors, pour terminer, on va écouter Raissa Oyasekou et les journalistes au Gabon, et après, on revient vers vous.
Pour renforcer la contribution des peuples autochtones au développement durable, il est essentiel de reconnaître et protéger leurs droits. Nous devons commencer par garantir leurs droits fonciers, leurs droits à la culture et à l'autodétermination. Aussi, nous devons inclure leur savoir dans les politiques publiques, intégrer leurs connaissances traditionnelles dans le processus de planification et de gestion des ressources naturelles. Soutenir par ailleurs leur activité économique en favorisant le développement d'activités durables et respectueuses de l'environnement. Les peuples autochtones sont des acteurs clés du développement durable. Leur contribution à la préservation de l'environnement et à la promotion de modes de vie durables est inestimable.
Voilà, donc c'était Sylvana Oyasekou. Une dernière question, et je vais lire pour vous poser cette question, par exemple à Kedi, hein, pour terminer très rapidement. C'est la question d'un de nos auditeurs. Alors il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, « En ce 21e siècle, nous devons bannir l'idée d'être autochtone. Ce terme ne symbolise plus les racines les plus anciennes des peuples occupant telle ou telle terre, mais les signes de faiblesse et du sous-développement. » Kedi, je pense que vous avez compris un petit peu cette question, hein. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu aussi finalement? Moi, je me soucie un petit peu plus du pont entre l'autochtone et effectivement la vie moderne pour qu'il ne soit pas exclu et marginalisé très rapidement.
Oui, cette question aussi m'a fait rire un peu, hein, parce que la question autochtone est considérée par rapport à son identité et que chaque population a son identité culturelle. Et que les gens pensent que les populations autochtones, leur mode de vie là, c'est un mode de vie parfois pauvre, mais quand tu es dans un milieu de populations autochtones, tu ne sentiras pas que les populations autochtones sont pauvres. Ça, c'est leur mode de vie. Et je pense que nous devons avoir la transculturation des modes de vie. Vous avez votre mode de vie, moi j'ai mon mode de vie et qu'on les mélange en sorte que nous puissions vivre ensemble. Mm-hmm. Parce que combien de fois...
Et je crois que c'est une très bonne conclusion. Je oui. Suis désolée, on doit s'arrêter là, cher Kedi Bosselou Molin. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du REPALEF en République démocratique du Congo, le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en RDC. Nous avions également Rabiatou Bama, ingénieur ingénieure forestière, présidente du CAFEN, le réseau forêt et environnement du Cameroun. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à nos auditeurs, à nos auditrices. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. On reste en contact. Bonne soirée et bon courage.